France Culture.
Bonjour Valérie Zenati.
Bonjour.
Awanu épisode 3, la veste Rabin Arafat. On va comprendre pourquoi, hein, un peu plus tard. Je continue ce portrait par la géographie. On arrive donc à Paris, après Jérusalem, un peu Tel Aviv, dont on n'a pas parlé, mais dont on aurait pu parler. Vous en parlez dans vos ouvrages, En retard pour la guerre et Quand j'étais soldate. Mais peut-être on peut en profiter pour s'arrêter sur ces lieux, justement, qui vous constituent, qui sont très importants pour vous. On arrive à Paris, on est chez vous, là, précisément, dans votre appartement. Mon œil s'arrête sur la machine à coudre Singer qui a appartenu à votre grand-mère chère, si oui, chère. Donc, ces lieux qui vous constituent, c'est une vue de mon esprit ou...
Ah, j'aime c'est beaucoup vrai que vous parliez de géographie, quand, voilà, en évoquant un petit peu, voilà, cette vie que j'essaie d'attraper de différentes manières, parce que je pense que l'histoire et la géographie et les langues sont en quelque sorte les grilles pour un peu suivre et comprendre. Et en ce qui concerne la géographie, sans doute que le fait d'être né quelque part en ayant la mémoire d'un ailleurs qui était le lieu de naissance de mes parents, d'avoir été déplacé en Israël ensuite, a accentué chez moi le désir de sentir qui je pouvais être selon les lieux. C'est-à-dire, j'avais vraiment... Et j'ai toujours cette conscience que mon expérience de la vie change selon les lieux où je me trouve. Et ça me passionne. Et alors, tous les lieux ne provoquent pas chez moi les mêmes émotions. Parfois, c'est simplement évidemment de la beauté, de la curiosité. Mais il y a des lieux comme, la France, Israël, l'Algérie, où je suis allée, où j'ai pu aller en 2012.
Notamment pour écrire Jacob.
Voilà, exactement. Et ce voyage a été pour moi, un grand bouleversement, parce que me tenir là où ma mère s'était tenue, c'était pouvoir plonger dans un passé que je n'avais pas connu et dans des sensations. Et puis ensuite, plus tard, quand je suis partie à Tchernovitz, où est née Aaron Appelfeld, j'ai eu le sentiment que cette géographie-là était la mienne aussi. Peut-être que inconsciemment, j'ai eu envie de conduire ma vie en fonction aussi de ces déplacements. Et Paris a été cette étape que j'ai choisie en 91, à 21 ans. Donc, après une première année à l'Université de Jérusalem, qui avait été très secouée par la guerre du Golfe, par la situation politique qui me mettait hors de moi, notamment avec l'implication des religieux dans le champ politique. Et à un moment donné, je crois que j'ai senti que soit j'allais consacrer toute ma vie à ce combat et ne pas vivre ma propre vie, soit il fallait que je prenne un peu de champ. Et puis, je ressentais aussi confusément le besoin d'être dans un pays plus calme, dans une région plus calme. Et aussi, ce qui m'a hanté peut-être pendant les 8 ans là-bas, c'était la question, qui serais-je devenue si j'étais restée en France ? J'avais vraiment l'impression d'avoir pris mon élan en France pour sauter à pieds joints dans l'inconnu en Israël. Et quelque chose qui s'était tissé dans l'enfance, à travers notamment les études, à travers tout ce que je percevais de ce pays sans bien le connaître. Même, moi, je n'étais jamais allée en Normandie, en Bretagne. Enfin, ma connaissance de la France était quand même se résumer à la Côte d'Azur, la Savoie et Paris, où nous venions. Mais j'avais besoin de répondre à la question... Qui serais-je devenue si je n'étais pas partie ? Je suis revenue en France, mais cette fois-ci à Paris. Et dans le but de faire des études, alors je voulais continuer les sciences politiques, j'ai débarqué à Sciences Po.
Vous avez dit dans l'épisode précédent que vous vous demandiez si vous n'aviez pas envie d'être présidente de la République, par exemple.
Oui, ça c'était vraiment dans l'enfance.
Ah non, c'était plutôt.
C'était vraiment à 11 ans. Mais ensuite, en Israël, l'action politique me semblait vraiment une action primordiale. Mais j'avais beaucoup d'envie, enfin tout se bousculait en moi. Autant quand je pense à mon enfance, j'ai l'impression que j'étais un petit corps bourré de petits papiers serrés et dans lesquels étaient inscrites des choses indéchiffrables. Autant dans l'adolescence, j'étais un corps qui voulait se propulser dans des directions très différentes. Donc la diplomatie m'intéressait, le journalisme, la biologie. Je voulais attraper la vie par tous les moyens. Et les sciences politiques, oui, j'étais passionnée d'histoire et les sciences politiques me semblaient quand même correspondre à ce que je voulais étudier. Or, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait aucun moyen de se renseigner. Donc, j'ai débarqué à Paris en juin. Et évidemment, rue Saint-Guillaume, on m'a dit, mais les inscriptions sont closes.
Rue Saint-Guillaume, c'est Sciences Po, c'est l'Institut d'études politiques.
Oui, le concours est déjà passé. Vous ne pouvez pas vous inscrire. Alors, j'étais un peu déçue et je ne voulais pas perdre une année. Donc, je suis allée à l'INALCO, au Langso, pour étudier l'hébreu. Et ce qui peut paraître paradoxal, puisque je parlais hébreu, mais le programme proposé, c'était langue et civilisation. Donc, on étudiait les langues, mais aussi l'histoire, la linguistique, la philosophie. Et j'ai commencé ces études qui m'ont passionnée parce que l'hébreu, comme je l'ai dit précédemment, je l'ai appris physiquement en Israël. Et là, tout à coup, j'avais un contact avec la langue qui me permettait un peu de déplier et d'ouvrir ces mystères.
Alors, déplier ou tricoter, hein, je ne sais pas, puisqu'on est en train de tricoter aussi. Hein. On parlait de décalage, mais aussi de superposition.
Et, oui.
En fait, finalement, c'est un tricot.
Oui.
J'ai l'impression, parce que les choses s'enchevêtrent dans ce que vous nous racontez. Elles se superposent à un moment, mais elles finissent par s'enchevêtrer.
Elles finissent par s'enchevêtrer fort heureusement, parce que la superposition était un peu lourde à porter. Et je dois dire que lorsque je suis arrivée à Paris, si vous parlez effectivement de tricot, de tissu...
C'est pas pour parler de la veste.
Non. c'est la première fois dans ma vie où j'ai senti que j'étais dans un lieu qui m'offrait la possibilité d'être dans toutes mes composantes ou mes contradictions, sans me demander d'être plus ceci que cela, ou uniquement ceci que cela, une femme juive avec des parents qui venaient d'ailleurs, de gauche, enfin, je sais pas, tout ce qui pouvait, grande lectrice. Il y a eu quelque chose à Paris qui a été extrêmement accueillant. La beauté de la ville, déjà. Moi, je m'en suis pas remise. Parce que ce que j'avais découvert à Beersheva, en vivant dans ce quartier de HLM, dans la ville, il y avait des terrains vagues, tout a été construit dans une sorte d'anarchie qui me heurtait. Ça manquait profondément de beauté et d'harmonie. Et arriver à Paris, qui est quand même une ville voilà, où la beauté et l'harmonie ont été pensées, où il y avait la Seine, où il y avait une sorte d'histoire sereine, à mes yeux en tout cas, qui était racontée par l'architecture. J'ai eu aussi l'impression, parce que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais j'avais conscience de venir d'une famille très modeste, comme on disait, financièrement parlant, socialement. Mon père était cheminot, ma mère, mère au foyer, comme on disait à l'époque, à Nice, et puis ensuite elle a été caissière en Israël. Et donc il y avait quelque chose aussi sur la classe sociale qui était plus difficile pour moi peut-être en Israël. Et quand je suis arrivée à Paris, j'ai été neuve et j'ai été aussi seule. Je n'avais pas de famille vraiment ici. Je ne connaissais personne. Et tout était vraiment à conquérir. Hein. Bon, comme dans les romans balzaciens, c'est peut-être un cliché, mais il y a eu quelque chose de la conquête qui s'est jouée pour moi à ce moment-là. Et un sentiment de grande ouverture. Et il y avait autre chose aussi. C'est que je venais d'une région où les frontières existaient de manière physique. Elles étaient infranchissables. Vivre en Israël, c'était comme vivre sur une île. On ne pouvait quitter le pays qu'en avion. Même s'il y avait eu le traité de paix avec l'Égypte, peu de gens allaient en Égypte. Et là, en Europe, sentir tout à coup que je pouvais traverser les frontières. L'espace était là, à portée de main. Ça a été une grande joie d'arriver ici.
Et donc, tout en étudiant, en travaillant dans une boutique à Saint-Michel,
oui,
vous êtes aussi entrée comme stagiaire à la radio communautaire juive.
Oui, RCJ. Oui, RCJ, tout à fait.
Donc, la voie du journalisme se précisait.
Elle se précisait. J'avais déjà vraiment ce désir de bouger, de découvrir, d'aller partout. Je n'étais jamais allée. Désir, entre parenthèses, que j'avais assouvi d'une manière un peu curieuse et transgressive quelques mois avant d'entrer à la radio. J'avais lu dans un entrefilé dans Libé qui racontait qu'il y avait une grève des tabacs en Italie. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai décidé d'acheter... je venais de toucher ma bourse, 3 000 francs. Et j'ai acheté pour 3000 francs de cigarettes. Et je suis partie vendre des cigarettes en Italie.
Du trafic. Voilà, du trafic de cigarettes.
Totalement illégal. Alors là, la première élève de la classe, voilà, toute fière d'être dans les clous, n'a pas réalisé que c'était absolument illégal. Enfin, j'ai vraiment fait du trafic. Et quand j'y pense, je me dis, mais si mes enfants avaient fait ça, j'aurais été folle d'inquiétude et de rage. Mais là, il y avait chez moi d'abord le goût de l'aventure. Et j'ai découvert Rome en vendant des cigarettes. Et donc, il y avait ce goût de l'aventure, du risque, partir, découvrir. Et la radio a été un terrain de découverte inouï.
Combien de temps vous êtes restée à RCJ ?
Alors, je crois que j'y suis restée à peu près 2 ans, donc comme stagiaire.
Donc, 1993-1995
92-94.
Avec des moments très marquants, on peut en citer quelques-uns. Par exemple, la visite du Premier ministre israélien Yitzhak Rabin.
Oui, tout à fait.
À Paris,
le 1er juillet
1993, donc avant la signature des accords de Oslo. Hein, qui est en septembre 1993. Et c'est là qu'arrive la veste.
Oui,
c'est là. Alors, racontez-nous.
Alors, la veste. J'ai suivi donc... Alors, ce qui était formidable dans cette petite radio, c'est que tout était possible. Il y avait... Voilà, c'est pas comme à Radio France où les stagiaires ne sont pas forcément envoyés partout. Moi, au bout de quelques mois, j'étais accréditée à l'Élysée, à Matignon, à l'Assemblée nationale. Je traînais dans les couloirs de l'Assemblée. Je n'en revenais pas de voir, je sais pas, Jacques Chirac. J'ai vu tous les cadras, comme on les a appelés, Hollande, Sarkozy, Ségolène Royal. Enfin, c'est bien. C'était fou pour moi de me retrouver face à eux, d'être aussi près du pouvoir politique. Et puis de 1000 autres choses. Et quand il y a eu cette visite d'Yitzhak Rabin, évidemment, à la radio, il fallait qu'on la couvre. Et j'étais envoyée avec une amie avec qui je faisais vraiment à la fois les 400 coups, et voilà, qui s'appelle Myriam, qui a beaucoup compté pour moi aussi. Et on s'est retrouvés à suivre Yitzhak Rabin. Et après, la rencontre à l'Élysée avec Mitterrand, je suis allée à l'hôtel Crillon, où était son... où il logeait. Et j'essayais d'avoir toutes les infos possibles par son staff, son directeur de cabinet. Puis j'étais heureuse de parler hébreu, puisque ça ne m'arrivait pas si souvent à Paris. C'est-à-dire que tout se faisait un peu en miroir. En Israël, le français et la France me manquaient. En France, où j'étais très bien, j'avais quand même cette dimension-là aussi qui pouvait me manquer de l'hébreu et de la politique israélienne. Et je me suis retrouvée, ça demanderait beaucoup plus de temps pour raconter les choses en détail, mais alors que je ne devais pas être là, je me suis retrouvée à l'étage de la délégation israélienne. Et j'ai, en empruntant un mauvais ascenseur, j'ai vu une délégation arabe, alors à ce moment-là, que j'ai identifiée comme étant palestinienne plutôt, avec quelqu'un qui pouvait ressembler à Yasser Arafat, mais sans le kéfier. Ça a duré à peine quelques secondes. Les services de sécurité m'ont tout de suite éloigné et m'ont dit « Tu n'as rien vu, tu ne dis rien, ils ont pris mon identité. » Et donc, moi, je n'ai rien raconté. Je ne savais pas très bien ce que j'avais vu. Mais surtout, je pense que j'étais assez docile et donc je n'ai rien raconté quand j'ai fait mon reportage.
Votre reportage.
Et puis quelques mois plus tard, on a appris qu'il y avait eu les accords donc de paix, enfin d'Oslo, de reconnaissance mutuelle entre les Israéliens et les Palestiniens. Mon rédacteur en chef a reçu un coup de fil d'un journaliste israélien. Il se murmure que Rabin a rencontré Arafat à Paris en juillet, et donc mon rédacteur chef m'appelle, me convoque et me dit « Mais alors, il paraît que tu aurais vu... » Et moi, je nie, parce qu'on m'avait dit de me taire, donc je lui dis non, c'est faux. Et puis je travaillais donc toujours dans cette petite boutique à Saint-Michel, au coin de la rue de la Huchette. Et un soir, c'était des années où je dormais très peu. À la fois je travaillais, j'étais stagiaire, je donnais des cours d'hébreu le matin, enfin. Et là, je reçois un appel à la boutique où quelqu'un qui me parle en hébreu et qui me dit « Tu peux parler, tu peux dire ce que tu as vu. » Ce qui était vraiment... très étonnant. Enfin, j'avais l'impression d'être dans une sorte de de film. Et donc là, je suis retournée voir mon rédacteur chef et je lui ai dit « En effet, voilà ce que j'ai vu. » Ils ont fait une dépêche AFP, donc l'agence France Presse, pour rapporter ce que je disais. Et là, tout s'est emballé. Les téléphones ont commencé à sonner, les journaux, PPDA qui voulait m'interviewer, Paul Amart qui m'a...
PPDA, c'était Patrick Poivre d'Arvor,
voilà,
qui présentait les JT.
Des journalistes étrangers, Paul Amart qui présentait le journal sur...
Sur la 2.
Sur la 2, qui me voulait à tout prix pour le soir même sur le plateau, où était invité également François Mitterrand. Et donc, je suis allée sur le plateau de France 2 ce soir-là. Je me suis retrouvée dans les loges avec Mitterrand, qui était quand même ce président qui m'avait donné envie. Voilà, j'ai toujours là, dans les archives que j'ai devant moi, les propositions pour la France, le bulletin de vote de 80 ans. J'avais tout conservé. Et là, je me retrouve face à Mitterrand, dans les loges, en tête à tête, pendant 5 minutes. J'ai 23 ans. Je comprends pas très bien ce qui m'arrive. C'est certainement le fameux quart d'heure de célébrité, voilà, dont parle Andy Warhol, et dont j'ai raconté ça, qui a été à la fois ni confirmé ni infirmé. Mais le fait est que la radio, pour me remercier, voilà, de ce coup de pub incroyable, parce que il y a eu des articles dans le New York Times, dans des journaux japonais, enfin, c'est assez fou. Et donc j'ai eu une prime, je crois, il me semble de 12 000 francs ou 15. Et en arrivant à Paris, j'avais habité une chambre de bonne rue Marbeuf, en face de Kenzo, la boutique Kenzo. Et je rêvais devant la vitrine de Kenzo. Évidemment, j'étais fauchée, je mangeais des pâtes, des œufs et pas grand-chose d'autre. Et là, avec cet argent, pour la première fois, j'avais une telle somme, je suis allée chez Kenzo m'acheter une veste et un pantalon, une veste que j'ai toujours. Le pantalon, je ne l'ai plus. Une veste Kenzo qui coûtait, je me souviens, 5000 francs. Donc, c'était voilà, fou pour moi. Et c'est la veste que j'appelle ma veste Rabin Arafat. Un an après, ils sont revenus à Paris, invités par l'UNESCO. Et j'ai interviewé Yasser Arafat, cette fois-ci dans les escaliers du Bristol, entre le troisième étage et le rez-de-chaussée. Voilà, on descendait les escaliers, je lui tendais mon micro, je lui posais des questions en anglais, il me répondait en anglais. C'était pour moi, je me sentais à ma place parce que j'étais la petite souris qui voyait les grands de ce monde, les mouvements historiques. Et puis par la suite, j'ai été embauchée à la radio. Et en 94, j'ai vécu des choses très, très fortes.
Oui, l'année 94, vous disiez un an après, donc on est en 94 quand vous croisez à nouveau Arafat.
Oui.
Mais 94, ça a été une année très importante pour vous parce que elle a commencé par un voyage en janvier à Auschwitz avec des parlementaires dont Simone Veil. Vous en parlez dans Mensonge, Valérie Zenati. En mars, vous étiez à Sarajevo, en plein siège.
Oui.
En juin, vous avez couvert le cinquantenaire du débarquement. Donc, c'était une année très intense.
Ça a été une année très intense, à la fois une année historique et européenne. Aller visiter le camp d'Auschwitz, parce que j'ai l'impression que beaucoup de phrases sont impossibles avec le mot Auschwitz, mais aller visiter le camp d'Auschwitz faisait partie des 100 rêves ou projets dont j'avais dressé la liste à 16 ans. Parce que j'avais l'illusion qu'en allant là-bas, je pouvais approcher et comprendre quelque chose. Évidemment, en accompagnant ce voyage de parlementaire européen avec Simone Veil, je n'ai strictement rien compris. Mais j'ai été sur les lieux en janvier. Et je crois que là, j'ai prouvé vraiment pour la première fois les limites du journalisme en ce qui me concernait. Parce que je ne trouvais pas les mots, je n'étais pas capable de rendre compte de ce que je voyais, de ce que j'entendais. Il y avait avec nous des rescapés qui racontaient des blagues, et puis après, des histoires épouvantables. Être avec Simone Veil était aussi, pour moi, une émotion, parce qu'elle faisait partie des figures de mon enfance, des modèles. J'ai surtout compris qu'on ne pouvait rien comprendre. Et en tout cas, moi, je n'avais pas les moyens de restituer quoi que ce soit. C'est peut-être le moment où j'ai commencé à penser que l'écriture pouvait être... Alors, j'écrivais toujours, hein, mais dans mon coin, comme on dit. Mais que l'écriture pouvait être un chemin plus proche de moi que le journalisme. En tout cas, que le journalisme radio, alors que j'aime vraiment énormément la radio. Et puis, 2 mois plus tard, je me suis retrouvée à Sarajevo. J'ai voulu aller à Sarajevo parce que je faisais à ce moment-là le journal du matin. Donc je me levais le matin à 4 heures pour préparer l'édition du matin. Et c'est vraiment 94, c'est vraiment une année où on a beaucoup parlé de Sarajevo au moment de la taille du marché. Mais sinon, ça se résumait, comme toutes les guerres à un moment donné, à une dépêche qui donnait le bilan, 2 morts, 3 morts, dans des lieux que je n'arrivais même pas à prononcer. Grebavica, quand vous voyez Grebavica écrit, vous ne savez pas comment le dire. Et il y a quelque chose en moi qui s'est élevé contre ça. Je me suis dit, je ne peux pas parler d'une réalité que je n'approche pas autrement qu'avec une dépêche AFP. Donc j'ai voulu voir de mes yeux ce qu'était le siège, ce qu'était cette guerre, qui étaient les gens qui vivaient là-bas. Et j'ai vécu à Sarajevo des jours qui m'ont profondément marqué. Alors je suis partie sur mes propres fonds. Je n'avais pas d'argent pour aller au seul hôtel, donc le Holiday Inn, où allait toute la presse internationale, et où la nuit était à 120 $, je crois. Donc moi, je n'avais pas les moyens. J'ai dormi chez un journaliste que j'ai rencontré à Split, où on attendait un avion militaire en Hercule pour aller là-bas. Le moment où les Serbes ne nous ont pas laissé nous poser, où on a tourné au-dessus de l'aéroport, l'arrivée à Sarajevo, le blindé où on s'est fait tirer dessus, le premier pied posé sur des gravats, des débris de verre, la nuit étoilée parce qu'il n'y avait pas une lumière dans la ville, il y avait le couvre-feu, vivre sans chauffage, il faisait très froid, sans pouvoir se doucher parce qu'il n'y avait pas d'eau. Tout ce que j'ai vécu là-bas, ça aussi, ça fait partie des choses qui m'ont donné une conscience de ce qu'était la politique, de ce qu'était la guerre, de ce qu'était l'impuissance. Parce qu'on a été présents en Bosnie, la Forprenu, il y avait la Forprenu. J'ai rencontré des soldats de la Forprenu, j'ai sympathisé avec des soldats égyptiens. Les Français tenaient l'aéroport. Et ça a été important aussi bien humainement que pour comprendre aussi les limites de l'action politique, le fait que l'Europe... À ce moment-là, elle était dans les années 90, dans une construction qui allait vers la paix, vers la paix économique, l'ouverture des espaces. Plus personne n'avait envie de mourir pour une cause. Et j'ai fait des rencontres là-bas qui ont été très fortes parce que il y avait toujours, je le disais, chez moi, quelque chose qui me disait « je viens aussi de l'Est ». L'Est, pour moi, c'est l'Europe de l'Est, c'est les Balkans. Et mystérieusement, d'ailleurs, les habitants de Sarajevo me le disaient, ils me disaient « mais pour nous, t'es une bosniaque, tu ressembles à une bosniaque, tu as un esprit bosniaque ». Je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est un mélange de nostalgie, d'amour des autres et de désir de se retrouver autour d'une guitare pour chanter.
Donc, expérience extrêmement forte pour vous, et on l'entend dans la façon dont vous le rapportez et dans les souvenirs qui ont l'air d'être encore extrêmement vivaces. Après, malgré tout, vous avez quitté le journalisme, quitté RCJ. Vous avez passé 2 ans, Valérie Zenati, chez Ramsay comme assistante d'édition. Et puis, vous faites une maîtrise et vous passez le CAPES d'hébreu. Vous enseignez l'hébreu à Paris et à Lille. Des années que vous avez beaucoup aimées, je crois.
Énormément. J'ai choisi l'enseignement après la naissance de mon premier enfant, de mon fils. J'avais besoin là aussi de vivre le temps autrement que dans un bureau et où je n'étais pas très heureuse par ailleurs. Et l'enseignement m'a semblé, parce que j'avais vraiment le goût de la langue et peut-être de la transmission, peut-être que le fait d'avoir un enfant, ça a été vraiment un très grand bouleversement, parce que ce que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est que j'ai eu le sentiment pendant toute mon enfance et mon adolescence d'être très vieille, d'avoir une mémoire ou un vécu qui dépassait de loin les années que j'avais réellement vécues. Et quand mon fils est né, quelque chose s'est opéré en moi d'un retournement du temps, et je me suis rapprochée de mon âge réel. Et
26 ans.
Voilà, j'avais 26 ans quand il est né, et je crois que j'ai vraiment eu mon âge, intérieurement et extérieurement, si j'ose dire, à 30 ans à peu près. Et la naissance de mon fils, tout ce que ça a enclenché, y compris le début de la psychanalyse, et donc d'un retour, d'une nécessité de déchiffrer l'indéchiffrable, ça m'a rapprochée de l'enfance. Et ça s'est exprimé de deux manières. D'une part, donc, le CAPES, et le désir d'avoir en face de moi des jeunes gens à qui j'apprenais l'hébreu, Et j'ai tellement aimé mes élèves, j'ai tellement aimé entrer en cours, faire des cours, un moment de presque de spectacle vivant. J'étais très intimidée, les élèves ne le savent pas toujours, mais un prof a le trac avant d'entrer en classe. Moi, j'avais le trac les premières fois, j'avais le trac à chaque rentrée, j'avais le trac à chaque retour de vacances. J'ai eu le trac quand je me suis coupé les cheveux, parce que j'avais les cheveux longs. Et ça a été important aussi pour moi d'avoir tout à coup les cheveux courts. Ça correspondait à quelque chose. Et voilà, je me disais, mais comment ils vont réagir?
Est-ce qu'ils vont me reconnaître?
Oui. Et la possibilité de rendre à l'école, d'une certaine manière, ce qu'elle m'avait donné. D'être cette prof qui pouvait juste donner des petites clés, des étincelles, des éclairages. Ça a été, là aussi, très fondateur.
Mais c'est aussi pour cette raison que les premiers livres que vous avez écrits, puisque dans la liste des 100 rêves à faire dans sa vie que vous aviez écrit à 16 ans, il y avait aussi publié un livre avant 30 ans, donc il fallait s'y mettre. Hein. Mais est-ce que c'est aussi la raison pour laquelle les premiers ouvrages ont été des livres dits jeunesse?
Alors là aussi, quelque chose s'est tissé entre la naissance de Lucas, mon fils, l'enseignement. Tout à coup, j'étais vraiment en contact avec l'enfance et l'adolescence. Et sur RCJ, où je ne travaillais plus, j'avais une émission littéraire qui s'appelait Postface. Et un jour, j'ai reçu Geneviève Brisac, qui avait reçu le prix Femina pour Week-end de chasse à la mer, et qui dirigeait à l'époque plusieurs collections de littérature pour enfants et adolescents à l'École des loisirs. Et j'ai découvert la littérature jeunesse contemporaine grâce à cette rencontre avec elle. Et ça a suscité en moi, effectivement, l'envie d'écrire pour les enfants. J'avais des tas de débuts de romans qui n'aboutissaient pas. Je n'avais vraiment pas les clés pour aller au-delà de l'impulsion première. Et c'est avec un conseil qu'elle m'a donné suite à un texte que je lui avais donné, qui était un début de plus. Elle m'a dit, écrivez sur quelque chose de très simple, mais mettez-y tout ce que vous avez en vous. Et j'ai écrit mon premier texte, une addition des complications. Et donc oui, l'écriture pour la jeunesse est venue à ce moment-là, dans cet entre-là, avec l'enseignement et la maternité.
Il y a eu deux livres en 1999 à l'École des loisirs, une addition des complications dans la collection Neuf, une montre pour grandir dans la collection Mouche, mais vous avez, Valérie Zenati, publié 13 livres entre 1999 et 2020 pour la jeunesse.
Tout à fait.
Et en 2002, vous passez la grègue d'Hébreu.
Oui.
Au programme, un livre qui s'intitule « Le temps des prodiges ».
Exactement. D'un certain Torah Plaot en hébreu.
D'un certain Aaron Appelfeld. À suivre l'épisode 4 dans la tête d'Aaron Appelfeld. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Et à demain.
À demain.
C'était À voix nue avec Valérie Zenati, prise de son Lucien Lefebvre, réalisation François Test, chargé de programme À voix nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.